Vincent.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Amélie Beaucourt.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, pour la journée internationale de l'alphabétisation, nous parlerons de l'apprentissage de la lecture. 773 millions d'adultes dans le monde ne savent ni lire ni écrire selon l'UNESCO. Un handicap quotidien doublé d'une source de honte en public et qui nécessite de faire appel aux autres pour envoyer un courrier, pour effectuer des démarches administratives ou même pour aider ses enfants à faire leurs devoirs. Pourtant, l'apprentissage de la lecture se fait à tous les âges, à condition bien sûr d'appliquer la bonne méthode et d'avoir accès évidemment à des structures qui comblent ce vide qu'a laissé l'école. Pour en parler avec nous, nous recevons Laurence Pierson qui a enseigné pendant près de 20 ans et qui a élaboré avec une de ses consoeurs un cahier de lecture pour se réconcilier avec la lecture. Au téléphone avec nous dans l'émission, Aline Le Guluche. Elle a appris à lire à 50 ans et raconte son combat contre l'illettrisme dans un livre paru aux éditions Prisma. Et enfin, Mamadou Lamine Sow, conseiller régional éducation pour l'UNESCO en Afrique de l'Ouest, qui sera au téléphone avec nous depuis Abuja, au Nigeria, en début d'émission pour faire un point sur la situation sur le continent. Si vous souhaitez nous raconter votre histoire, si vous avez vous aussi appris à lire plus tard, en dehors du circuit de l'école, contactez-nous dès maintenant sur le WhatsApp de l'émission au 33 7 64 45 51 41.
Garba Haruna, enseignant non-voyant. Donc moi, j'apprends à des adultes qui ont perdu la vision à écrire et à lire en braille. Et c'est un grand plaisir pour moi qui les apprennent et aussi qui sont en apprentissage. Fallait voir leur satisfaction, leur fierté de continuer à partager le plaisir de lire.
Au fait, la lecture pour beaucoup des enfants africains, surtout dans les brousses là éloignées, au lieu de recruter à 6-7 ans, souvent ils recrutent jusqu'à 10 ans, 11 ans. Et ces enfants-là arrivent encore à comprendre beaucoup parce que pour eux, bon, c'est là-bas où, c'est l'âge où l'enfant a acquis vraiment la maturité. Donc, c'est là où l'enfant comprend beaucoup de choses. Donc, et souvent, ils n'éprouvent aucune difficulté. Ils arrivent quand même à réussir.
Oui, c'est très bien lié. Parce que je ne l'ai pas appris à l'âge adulte, mais depuis la petite école. Ce qui m'avait motivé le désir de savoir lire, ce n'était pas de moi-même. C'est mes parents qui m'ont envoyé juste à l'école.
Merci à Swamana, Luc et Haruna pour ces témoignages qui nous proviennent du Bénin et du Niger. On va rester un peu en Afrique de l'Ouest, justement, avec vous, Mamadou Lamine Sow. Bonjour.
Bonjour, Madame Amélie Beaucourt.
Bonjour, vous êtes en ligne avec nous donc depuis le Nigeria. Vous travaillez en tant que conseiller régional pour l'éducation à l'UNESCO. Aujourd'hui, sur le continent africain, on estime que 190 millions d'adultes ne savent ni lire ni écrire. Selon vous, quelles sont les causes principales qui expliquent ce chiffre faramineux ?
Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, quand on regarde un peu les données à l'échelle mondiale, où on enregistre au moins 47% d'adultes non lettrés, on constate que sur ces 47 millions, au moins 27% des adultes non lettrés résident en Afrique au sud du Sahara. Ça doit nous interpeller et les causes sont multiples. Parmi les causes donc de cet analphabétisme, premièrement la question des langues d'apprentissage, le multilinguisme. Les quatre pays les moins alphabétisés dans le monde se trouvent en Afrique de l'Ouest et sont confrontés à ce problème de multilinguisme. Donc, en principe, les États doivent essayer de codifier les langues, faire la cartographie des langues et essayer de promouvoir les actions d'alphabétisation et d'éducation formelle à travers des langues unifiées. Donc ça, c'est une première contrainte. Deuxième contrainte ou le défi, c'est dû au fait que certaines valeurs sociales, les normes sociales, les cultures, généralement constituent des handicaps majeurs à l'alphabétisation, surtout des femmes. Et qui sait le rôle de la femme dans la société africaine comprendra que quand elle n'est pas alphabétisée, il y a des effets néfastes, des répercussions sur beaucoup d'aspects de la vie socio-économique de nos pays.
Mamadou Laminso, concrètement, à l'UNESCO, comment est-ce que vous proposez sur place de lutter contre cet illettrisme?
D'abord, il faut savoir que l'UNESCO, qui a le mandat global de la mise en œuvre et de l'évaluation des avancées de l'ODD 4, je voudrais dire Objectif de développement durable 4, qui, entre autres, va promouvoir l'éducation inclusive, équitable, de qualité pour tous et de pouvoir donner des opportunités d'apprentissage tout le long de la vie, donc accompagne le cadre d'action de l'éducation 2030 pour l'accomplissement donc de l'ODD 4. Et dans cette foulée, l'UNESCO donc a adopté 4 stratégies. La première stratégie, c'est le développement des capacités des États membres en matière de développement de politique, de développement de programmes d'apprentissage, d'alphabétisation et surtout d'évaluation des acquis des apprenants à travers des programmes très innovants. Et comme exemple, je parlerai du programme de la recherche action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation, communément appelé la RAMA. Et c'est un programme qui vise à développer les capacités des structures nationales, des partenaires étatiques et non étatiques, et mise en œuvre dans certains pays. Je parlerai de l'exemple du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire. La deuxième stratégie que l'UNESCO promeut, c'est la généralisation des actions d'alphabétisation en faveur des filles et des femmes qui sont les couches les plus défavorisées et les moins enclins à s'enrôler dans les programmes d'apprentissage. Et là, il y a un appui politique sensible à la dimension du genre à travers un plaidoyer national et international.
Monsieur,
là, aussi la construction des partenariats stratégiques pour la mobilisation des ressources donc visant à améliorer les programmes pour les filles et les femmes.
Merci beaucoup, Mamadou Laminso, d'avoir répondu à nos questions. On a compris donc qu'il fallait une alliance entre des politiques nationales et des actions locales sur le terrain pour améliorer la situation. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Et deux autres invités pour parler apprentissage de la lecture ce mercredi. Laurence Pierson, bonjour.
Bonjour.
Et Aline Le Guluche en ligne avec nous. Bonjour Aline Le Guluche.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous.
Laurence Pierson, vous avez enseigné en école primaire pendant près de 20 ans et aujourd'hui vous êtes graphopédagogue. Le mot n'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire que je m'occupe de l'écriture manuscrite. Grapho, c'est l'écriture et pédagogue. Donc en fait, c'est une maîtresse qui donne des cours uniquement d'écriture, puisqu'il y a beaucoup de problèmes avec l'apprentissage de l'écriture, qui est très lié bien sûr à l'apprentissage de la lecture. Mais les enfants n'écrivent plus très bien à la main. C'est un apprentissage qui se perd et ça a des conséquences embêtantes. Donc voilà, je m'occupe de ça.
Alors, on vient de parler de la situation en Afrique. En France, l'illettrisme touche 7% de la population âgée de 18 à 65 ans, selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Est-ce qu'on sait qui ça concerne concrètement ? Est-ce qu'on retrouve des déterminants communs comme l'appartenance à certaines classes sociales ? Est-ce que ça touche des femmes plus que des hommes ? Ou en tout cas, à l'école, plus des petites filles que des petits garçons ? Ou est-ce que ça touche absolument tout le monde ?
Alors écoutez, moi je ne suis pas une experte de l'illettrisme, je n'ai qu'une expérience de terrain, donc je ne peux pas vous donner des chiffres. Tout ce que je vois, c'est mon expérience personnelle et concrète, qui fait qu'il y a des élèves dans toutes les classes, enfin pas dans toutes les classes de français de Navarre, mais dans toutes les écoles dans lesquelles j'ai été, il y avait quelques élèves par classe qui étaient dans des classes au-delà du CP et qui ne savaient pas lire, plus ou moins suivant les quartiers, plus ou moins selon les situations, mais c'est quelque chose de récurrent. Et sur les réseaux sociaux, quand on discute avec les enseignants, on a très régulièrement des appels à l'aide d'enseignants qui disent « voilà, je suis en CM1 par exemple, et j'ai dans ma classe un élève qui ne sait pas lire du tout, qu'est-ce que je fais ?» Parce que ce n'est pas tellement prévu par le système. L'enfant est censé savoir lire.
Mais comment ça se détecte? Parce qu'à l'école, on se dit, un enfant qui ne sait pas très bien lire, bon, il a le temps d'apprendre. À partir de quand est-ce qu'on se dit, là, il y a un problème?
Alors, officiellement, je dirais à partir du CM1, puisque c'est le cycle 2 maintenant qui a été décalé récemment, prend le CP, le CE1 et le CE2. Mais dans la réalité concrète des faits, les cours de lecture, les leçons de lecture réelles ne sont faites qu'en grande section et au CP. Après ça, il y a bien sûr une matière lecture, mais les enfants sont déjà censés être au moins des codeurs, savoir au moins déchiffrer. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme il n'y a plus non plus de redoublement possible en CP, comme autrefois, un enfant qui ne savait pas lire avait une deuxième chance, une deuxième année. Maintenant, c'est devenu quasiment impossible de faire redoubler un CP. Et donc, en fait, un enfant qui ne sait pas lire doit continuer son parcours avec toutes sortes de béquilles, d'aménagements. On lui lit les consignes, on l'aide, etc. Mais il n'y a pas, c'est difficile dans une classe où vous êtes censé faire un cours de grammaire ou un cours de maths, d'un seul coup, de faire du béaba.
Aline Le Guluche, vous faisiez vous partie de ces 7% de personnes qui ont des difficultés avec la lecture et l'écriture, mais aujourd'hui, vous avez appris ou réappris plutôt à lire et vous racontez ce chemin dans un livre « J'ai appris à lire à 50 ans » aux éditions Prisma. Alors on va revenir un peu plus tard sur les raisons pour lesquelles l'école n'a pas réussi à vous transmettre ce précieux savoir. Mais d'abord, on peut lire à plusieurs reprises qu'apprendre à lire, pour vous, ça a été un combat pour devenir libre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi on se sent privé de liberté dans la société d'aujourd'hui quand on ne sait pas lire ou pas écrire?
Oui, tout à fait. C'est un combat que j'ai mené pour une liberté, parce qu'on vit dans un monde où tout est lecture, écriture et compréhension de la lecture et de ce qu'on écrit en même temps. Et tout ça, ça reste un petit peu compliqué pour les personnes illettrées comme moi. Ça met des barrières, ça met, on marche à l'aveugle, on est obligé de faire confiance aux autres. Et ça, c'est pas possible. On peut pas faire confiance aux autres parce qu'il y a toujours des personnes qui profitent de la faiblesse des autres, toujours. Et ça, c'est difficile. Et maintenant, on vit dans un monde où tout est dématérialisé. Donc, on est tout seul avec son ordinateur. Mais comment on fait? On ne fait pas. Donc, on est obligé de retourner à l'école. Et ça, c'est la vraie liberté. C'est l'émancipation des femmes et des individus en général.
Est-ce que passer par le numérique, par tous ces outils numériques, c'est quand on ne sait pas lire et pas écrire, est-ce que c'est un frein ou est-ce que ça peut être une aide?
Alors, pour des logiciels, que ce soit toujours les mêmes sur le milieu du travail, une fois qu'on a été formé, comme je l'ai vécu, voilà, après on se repère avec les couleurs, avec l'heure, avec des repères comme ça, parce que c'est toujours la même chose. Hein. Mais on ne peut pas remplir, les allocations familiales, on ne peut pas remplir la caisse de retraite, on ne peut pas faire les impôts. Si on ne sait pas aller sur le site, déjà écrire le site sur Google, hein, ensuite repérer où il est, ensuite le comprendre. Si on est illettré, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. On est obligé de demander de l'aide.
Nous avons reçu le témoignage d'un auditeur de Bambé au Sénégal. Écoutons-le.
Je m'appelle Amadou Fall Diouf. En tout cas, il y a un très grand problème, un réel problème pour la lecture dans les écoles élémentaires africaines, surtout de l'Afrique subsaharienne. Le constat est cinglant. À chaque fois, c'est le même problème qui revient, la lecture. Moi, la question que j'aimerais me poser à vos spécialistes, c'est comment faire pour captiver les élèves afin qu'ils puissent vraiment lire, décortiquer les mots.
Alors, Laurence Pierson, vous qui avez enseigné en primaire pendant près de 20 ans, quel était votre secret pour captiver les élèves, comme vous le demande Amadou?
Alors, je ne sais pas si j'ai un secret, mais ce que j'ai remarqué, c'est que d'abord, il faut un environnement sécurisant. Je pense que Aline Le Guluche a appris à ses dépens, bien tristement, que dans un environnement insécurisant, un enfant ne peut pas apprendre. S'il est en stress, s'il a peur de se faire gronder tout le temps ou de prendre des coups, il ne pourra pas apprendre. C'est une évidence, mais c'est une évidence qui mérite d'être rappelée. Il faut déjà que l'enfant se sente bien et se sente en droit de se tromper et en droit de tâtonner, d'essayer, sinon il n'apprendra rien. Et puis la deuxième chose, c'est tout bête, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est d'y aller vraiment petit à petit. En fait, pour que l'enfant se passionne, il faut qu'il découvrent le truc. Les enfants, quand ils commencent à savoir lire, ils ont une grande jubilation. On le voit, les enfants commencent à essayer de lire tout ce qui est autour d'eux, les affiches, les paquets de céréales sur la table. Mes enfants, quand ils étaient petits, essayaient de lire les programmes de la machine à laver. Ça ne les intéressait pas en soi. C'était la joie de savoir déchiffrer. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une jubilation d'enfants de comprendre la combinatoire. Pour chaque enfant, c'est une pierre de rosette. Ils découvrent le code, ils découvrent comment ça marche. Et il y a une joie. Donc, je pense que si on met les enfants dans un environnement en sécurité, qu'on y va très doucement, qu'on ne leur demande pas d'apprendre par cœur, mais qu'on leur montre le truc, qu'on leur décode petit à petit et qu'on fait ça étape par étape. Et puis après ça, bien sûr, proposer de plus en plus des textes intéressants à lire.
Vous avez mis au point avec votre consoeur Muriel Guiton un cahier de lecture qui s'appelle « Permis de lire », sous-titré « 12 étapes pour se réconcilier avec la lecture ». C'est paru aux éditions MDI. À qui est-ce que c'est destiné et comment ça fonctionne ?
Eh bien, ça fonctionne assez simplement. C'est destiné à tous les enfants et les adolescents qui ont plus de 8 ans, c'est-à-dire qui ont dépassé l'âge officiel d'apprentissage de la lecture et qui ne savent pas lire, quelle qu'en soit la raison. Nous, on ne cherche pas tellement à établir des diagnostics. On constate qu'il y a des enfants qui ne savent pas lire. On s'est pas tellement penché sur le pourquoi, mais surtout sur le comment faire maintenant qu'ils sont là. On ne peut pas les abandonner. Et donc, c'est une méthode qui va de manière très, très progressive. Ça commence tout simplement par les sons des voyelles, simples. Et puis, petit à petit, on combine avec des consonnes. On les présente 4 par 4. On les présente un peu plus rapidement que ce qu'on ferait pour des enfants de 6 ans, parce qu'on s'adresse à des enfants plus âgés, donc qui ont des capacités de mémorisation qui sont plus grandes. Et on leur propose des textes qui sont entièrement déchiffrables pour ne jamais les mettre en insécurité. Je parle toujours de sécurité parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Jamais demander à l'enfant de faire quelque chose qu'il n'a pas appris à faire.
On continue notre discussion dans quelques instants, mais avant un petit peu de bossa nova avec Billie Eilish.
Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. You go. I'm sorry if it's torture though. I know, I know. It might be more of an obsession. It really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna make them jealous. I'm the only one who does it how you like. You better lock your phone and look at me when you're alone. Won't take a lot to get you going. I'm sorry if it's torture though.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI avec aujourd'hui une émission consacrée à l'apprentissage de la lecture avec nos invités Laurence Pierson qui a écrit avec sa consœur Muriel Guiton « Permis de lire », un cahier de lecture pour se réconcilier avec la lecture, et Aline Leguluche qui a écrit « J'ai appris à lire à 50 ans aux éditions Prisma ». Si vous voulez réagir au thème de l'émission du jour, n'hésitez pas à nous appeler sur le WhatsApp ou à nous laisser votre petit témoignage sur nos réseaux sociaux. Le numéro, c'est le 33 7 64 45 51 41. Alors Aline Leguluche, on le disait juste avant avec Laurence Pierson, le rôle du maître d'école, le rôle de l'enseignant est primordial, il faut qu'il soit bienveillant. Et on apprend dans votre livre, d'abord que vous êtes la dernière d'une fratrie de 8 enfants, vous grandissez dans une ferme des Yvelines, donc c'est à côté de Paris, dans les années 60, et la priorité à cette époque-là, c'est d'aider l'exploitation familiale, donc les devoirs, forcément, passent après. Et là, vous arrivez à l'école et vous êtes confronté à un maître qu'on peut appeler tyrannique. Vous pouvez nous raconter ?
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Les premières années de la scolarisation sont très importantes. Et comme le disait la dame juste avant, Laurence Pierson disait, voilà, il faut mettre en confiance l'enfant et c'est une réalité. C'est comme ça. L'enfant doit être heureux d'aller à l'école et d'apprendre. En plus, moi, j'étais dyslexique. À l'époque, ce n'était pas du tout reconnu, loin de là. On était imbéciles, on était débiles, en fait, on manquait d'intelligence. C'était comme ça l'idée. C'était comme ça d'être dyslexique. Donc, cet enseignant ne cessait de me taper, de me punir, d'être vraiment très, 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 très dur avec moi et avec d'autres enfants qui avaient des difficultés. Et donc, après, je ne pouvais plus. Mais même encore à l'époque où on vit, même si je suis retournée à l'école, dès l'instant que j'ai quelqu'un dans mon dos et qu'il faut que j'écrive, je sens un blocage. J'ai encore ce mal-être qui me surgit dessus comme ça. Donc, c'est terrible.
C'était aussi la vieille école, hein, sans mauvais jeu de mots, mais vous subissiez des sévices corporels. On vous racontait la scène de à genoux sur une règle en bois, le bout des doigts frappés par une règle. C'est ce que beaucoup d'écoliers vivaient dans ces années-là. Et donc, c'est forcément, je suppose, associé dans votre tête à ce blocage-là. Et puis, le pire, peut-être, c'est l'humiliation, les paroles rabaissantes devant toute la classe. Et là, vous découvrez l'année suivante un enseignant qui a presque tout changé. Vous pourriez nous parler de lui ?
Oui, deux années ensuite, parce que j'ai redoublé avec cet enseignant en plus. Et deux années ensuite, je suis arrivée en CE1. Et c'était M. Beau, un jeune enseignant avec des techniques tout à fait nouvelles. Il a vite compris que j'avais des difficultés à écrire et à lire. Il m'a beaucoup aidée à joindre le B et le A, conjuguer les voyelles. Pour les exercices de calcul, souvent, soit que c'était mon ami à côté de moi qui les lisait, ou soit que c'était lui qui me les lisait, parce que je ne pouvais pas. Déjà, à l'époque, il avait adapté de l'aide orale, parce qu'en fait, j'aurais eu besoin d'un orthophoniste, j'aurais eu besoin d'avoir du temps pour apprendre. Et à l'époque, il n'y avait pas d'orthophoniste, hein, ce n'était pas reconnu.
Oui, allez-y.
Oui, je disais que c'est vrai que dans ce livre, je mets à la fin une petite plaidoirie pour que les orthophonistes puissent se joindre à toutes les aides qu'il y a maintenant dans les écoles. En France, il y a plein d'aides dans les écoles, mais il manque le béaba, quoi. Il manque l'orthophoniste pour justement mettre les enfants tous sur le même piédestal et puis que ces enfants aient la même facilité ensuite pour apprendre. Parce que si les parents travaillent, si les parents habitent à la campagne, s'il n'y a pas d'orthophoniste dans le coin, donc voilà, ça ne met pas les enfants tous à la même égalité. Et avec un orthophoniste dans nos écoles, cela résoudrait le problème.
Nous avons un auditeur en ligne avec nous, il s'agit de Paul, il nous appelle d'Abidjan, de Yopougon à Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonjour Paul.
Bonjour Amélie.
Paul, vous souhaitiez nous raconter une jolie histoire, je crois, sur un ami à vous qui a appris à lire très tard.
Oui, effectivement, c'est un ami, un aîné de 27 ans maintenant. Il a appris à lire à partir de 25 ans. En fait, j'allais dans la ville où il est, voilà, pour aller pour des raisons diverses. Voilà. Maintenant, il me montrait des images Facebook, des informations qu'il n'arrivait pas à cerner. Voilà, comme il ne savait pas lire, il était beaucoup adepte aux réseaux sociaux. Voilà, à chaque fois, je, je lisais les informations pour lui. Quand il recevait des messages, je les lisais pour lui. Voilà. Mais un jour, je lui ai demandé, bon, apparemment, à chaque fois que tu me demandes de lire pour toi, n'as-tu pas envie d'apprendre? Il m'a dit effectivement qu'il a envie d'apprendre, mais il a honte de me le dire, il a honte de s'en approcher, voilà, à des personnes pour que les personnes là l'apprennent à lire. Il a dit non, il n'y a pas de souci, moi je suis en première, c'est vrai, je vais t'apprendre avec le peu que je sais à lire. Voilà, donc on a commencé par les lettres de l'alphabet, voilà, je lui ai montré les voyelles, les consonnes, les syllabes, maintenant les couplets. Voilà, il a cerné un peu. Voilà, comme il était beaucoup adepte des réseaux sociaux, il voyait les lettres. Au niveau des calculs, ce n'était pas un souci pour lui.
Paul, c'est vous qui lui avez appris à lire?
Voilà, j'en viens. Au début, je l'ai appris à lire. Voilà, maintenant, juste après, il y avait la rentrée scolaire qui était là. Donc, moi, j'ai dû le quitter. Voilà. Mais tellement qu'il était motivé par la lecture, il a continué avec les cours d'alphabétisation qu'on appelle ici le cours de soi. Voilà, donc il continue son apprentissage. Vraiment, c'est très magnifique. Quand je le vois aujourd'hui, il cause avec moi par texto. Je trouve ça incroyable, vraiment.
Donc votre ami a 26 ans, c'est ça que vous aviez dit. Et vous, Paul, vous aviez quel âge quand vous lui avez appris à lire?
Voilà, il avait entre 25 et 26 ans. Moi, j'avais 16, 17 ans, si je crois bien.
Donc vous étiez à lycée, hein, et vous avez appris à un de vos amis plus âgés à lire. C'est quand même un témoignage très poignant. Merci beaucoup, Paul. Peut-être une réaction, Laurence Pierson. C'est magnifique d'apprendre à lire, de réussir à apprendre à lire à cet âge-là. Et peut-être aussi de ne plus montrer sa honte à ses amis et de dire, voilà, il faut que tu m'aides. Demander de l'aide, c'est le premier pas, peut-être. Une main tendue.
Moi, j'ai une petite anecdote personnelle. Du coup, j'y pensais plus, mais ça m'y a fait penser. J'avais une dame, il y a longtemps, qui gardait mes enfants quand ils étaient petits. C'est maintenant devenu une grande amie. Mais à l'époque, elle travaillait chez moi. Et je me suis rendu compte qu'elle ne savait pas lire. Sa fille était en maternelle et elle était dans une grande honte de ne pas savoir des choses que sa fille allait bientôt apprendre au CP. Et quand je me suis rendu compte de ça, je lui ai proposé de lui apprendre. Et donc, je rentrais un quart d'heure plus tard et elle partait un quart d'heure plus tard le soir pour dégager une demi-heure tous les soirs quand je rentrais à la maison pour lui apprendre à lire. Et je pense que ça va faire écho à ce que racontait Aline aussi, parce qu'au début, à chaque fois qu'elle se trompait, elle mettait ses doigts derrière son dos. Par réflexe. Elle avait 30 ans, je ne sais plus quel âge exactement, et elle mettait ses mains derrière son dos parce qu'à l'école, elle avait été frappée avec des coups de règle à l'école en Algérie chez elle. Et on en rigolait à la fin, mais ce n'était pas drôle en fait, parce que même plus de 25 ans après, elle avait encore cette peur de se tromper. Quand elle a réussi à surmonter ça, j'ai pu lui apprendre à lire. Et donc, c'était une grande joie. Et effectivement, ça lui a permis aussi de pouvoir passer son permis de conduire, parce qu'elle ne pouvait pas conduire tant qu'elle ne pouvait pas lire les panneaux. Et ça lui a redonné une autonomie, ça lui a redonné beaucoup de choses. Et c'est un grand plaisir et c'est resté une très grande amie.
Ça, Aline Le Guluche, cette histoire de permis de conduire, vous le racontez justement dans votre livre. Ça a été une vraie libération quand vous avez pu l'avoir, mais vous disiez que la conduite, ça allait puisque vous conduisiez le tracteur de votre papa, je crois, quand vous étiez à la ferme. Par contre, le code de la route, c'était beaucoup plus compliqué. Pourquoi ?
Ah oui, ça, le code de la route, c'était hyper compliqué. Je ne voulais même pas toucher au livre, ça ne m'intéressait pas. Je faisais semblant de le regarder, de comprendre pour faire plaisir à mon entourage, pour pas que ça se voie. Mais non, le code de la route, je l'ai appris avec les diapos au code de la route, enfin au permis de conduire, quand j'y allais tous les jours. Tous les jours après le travail, j'y allais autant de fois possible. Et puis de là, je pouvais mémoriser les questions et visualiser les diapos. Et comme ça, j'ai passé mon code et je l'ai eu du premier coup. Tandis que la conduite pour laquelle je me sentais à l'aise, comme il y avait l'inspecteur à côté et puis derrière aussi, il y avait du monde dans la voiture, et ben, j'arrivais pas à conduire parce qu'il y avait le regard de l'autre. Et c'est ça, les blessures, elles restent tout le temps. Enfin, pour ma part, elles ont eu beaucoup de mal à partir. Maintenant, je vis avec mes blessures, je les ai acceptées. C'est pour ça que je vais de l'avant. Les craintes sont toujours là.
Ces blessures dont vous parliez et que vous avez subies, je suppose que encore aujourd'hui c'est le cas, mais avant, en tout cas, vos 50 ans et avant que vous n'appreniez à lire, vous racontez dans le livre qu'effectivement il y avait sans cesse des petites remarques, des choses qui vous blessaient et qui vous faisiez encore plus honte. On va entendre tout de suite un extrait de votre livre. C'est vous qui l'avez mis en mots, évidemment, et qui l'avez lu pendant le confinement, je crois. Écoutez, c'est au chapitre 6.
Même parmi les amis, les allusions à l'illettrice ne manquent pas de méchanceté. Lors d'une soirée avec Benoît et Josette, que nous connaissons depuis longtemps, Benoît se met à parler d'un collègue qui ne sait même pas écrire le mot « stop ». Il ne faut pas exagérer, ce n'est pas si dur, s'exclame-t-il en rigolant. Il doit avoir une case de vide. Marcel en rajoute une couche. Oui, il est vraiment débile. Moi, je reste là, à les écouter. Ça me fait mal au cœur. Je pense à ce collègue que je ne connais pas. Le pauvre. Moi non plus, je ne sais pas écrire le mot stop. Ils sont vraiment méchants. Ils ne se posent même pas les bonnes questions. Il y a aussi les soirées où tout le monde choisit de jouer à un jeu de société. Le Scrabble Monopoly. Il faut écrire des mots. Ou bien lire ce qui est écrit sur les cartes. À chaque fois, je prétexte de ne pas aimer ces jeux. Que je préfère les jeux de cartes, comme la belote, le rami, ou bien encore le domino.
Et ces prétextes, hein, vous en listez beaucoup dans le livre. Vous racontez que quand on ne sait pas lire et écrire, on met en place tout un tas de stratagèmes pour cacher la situation à ses proches. Est-ce que vous pourriez nous en lister d'autres pour qu'on se rende compte à quel point c'est compliqué à vivre au quotidien ?
Alors c'est vrai que toute notre vie se découle de ça, en fait, toute notre vie. Toute notre vie, notre choix de mariage, notre choix de travail. Tous nos choix arrivent à cause de la lecture et de l'écriture. Si on veut faire un chèque, s'il faut qu'on fasse un chèque, eh ben, on va choisir de ne pas le faire parce qu'on ne sait pas le faire. Donc, on va choisir de ne pas aller en course. Tout au moins, on va acheter juste avec les sous qu'on a dans notre poche. On va choisir de ne pas aller au restaurant. On va choisir de ne pas jouer avec les gens. On va choisir toujours de se mettre en retrait. Et c'est ça c'est comme ça que les gens ils se mettent de côté par eux-mêmes, en fait, tristement. Et avec tout ça, on peut finir en dépression. Il y a des gens qui ont tellement de mal-être qui finissent en dépression. Moi, j'en étais vraiment pas loin à l'âge de 50 ans. Hein. J'en souffrais énormément. Je ne pouvais plus parce que si j'écrivais sur le cahier de transmission une phrase que j'avais recopié les mots de l'autre côté, parce qu'on est toujours en train de tricher en douce, et voilà, j'avais abrégé, mais ça ne voulait rien dire au bout du compte. Mais moi, dans ma tête, quand je le lisais, je trouvais que ça pouvait aller. Allez, voilà. Après, le cahier se le passait, il critiquait, et vas-y. Et donc, bon, c'était la misère. Moi, j'avais envie de pleurer, j'étais en colère. Voilà, c'était tout ça. Un mélange.
Ce mal-être que vous racontez, Aline Le Guluche, c'est à vous que je pose la question, Laurence Pierson. Est-ce qu'on le ressent aussi chez les enfants ? Comment ça se manifeste ? Est-ce qu'ils vont aussi chercher à camoufler ça ? Il y a une honte de ne pas savoir lire ? Ou est-ce que, comme on est jeune, on s'en rend moins compte, puisqu'on est de facto aussi plus dépendant des adultes ?
Non, dont les enfants se rendent très bien compte et ils peuvent développer diverses réactions. Il y en a qui peuvent devenir très perturbateurs et dire qu'ils s'en fichent, puisque du coup, qu'ils ne veulent pas apprendre, puisque s'ils n'y arrivent pas en disant qu'ils ne veulent pas, bah, c'est moins dur émotionnellement, ou au contraire se refermer dans leur coquille. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec cet outil qu'on a créé, donc permis de lire, c'est vraiment essayer de donner quelque chose qui permette à ces enfants d'avoir un outil simple qui doit être forcément accompagné par un adulte au début, qui leur donne les clés, qui leur manière de s'en servir, mais avec lequel ils pourraient être autonomes, puisque c'est aussi quelque chose qui est très important. C'est pas parce qu'on ne sait pas lire qu'on n'est pas intelligent. C'est justement cet extrait du livre d'Aline Guluche est glaçant, parce que dire qu'on est bête parce qu'on ne sait pas, moi, il y a plein de choses que je ne sais pas. Enfin, on ne sait pas parce qu'on n'a pas appris ou parce qu'on a mal appris. Et donc, dans ce cahier, ce qu'on a essayé de faire, c'est à chaque fois qu'il y a un exercice, de donner un exemple. à la place de que la consigne doive être systématiquement lue par un adulte. Alors, on a fait des fichiers audio aussi pour qu'ils puissent entendre la consigne. Mais à mon avis, ce qui est le plus efficace, c'est l'exemple. C'est-à-dire que s'il y a quatre phrases, et ben la première, la réponse est donnée en vers et l'enfant va pouvoir s'appuyer sur l'exemple pour faire pareil. Donc, on a essayé de faire des outils qui soient rassurants et qui soient, avec des exercices qui reviennent de manière systématique, le même type d'exercice revient, ça se complique petit à petit. L'idée, c'était vraiment de redonner justement dignité et autonomie aux élèves pour qu'ils puissent avoir un outil. Parce que les enseignants se plaignaient beaucoup de ne pas avoir d'outils. C'est-à-dire que si vous avez dans votre classe un enfant qui a 8 ans et qui ne sait pas lire, mettons que vous arriviez à dégager du temps, 10 minutes par jour, en mettant les autres en autonomie, vous allez prendre quoi? Un livre de CP? Vous allez lui apprendre avec des histoires de petits ours et de petits lutins mignons. C'est très humiliant pour un enfant de 8-9 ans qu'on lui donne un livre de CP où il y a écrit en gros CP sur la couverture. Non, c'est pas parce qu'on a 9 ans qu'on n'a pas d'ego et qu'on a... voyez. Donc c'est important aussi de leur donner des choses avec des centres d'intérêt qui sont plus proches des leurs et avec... La seule caractéristique de ces enfants, c'est qu'ils ne savent pas lire, mais on ne s'est pas interdit un vocabulaire difficile, on ne s'est pas interdit des histoires d'un niveau plus complexe, puisque ce n'est pas parce qu'on ne sait pas lire qu'on n'est pas intelligent, c'est juste un savoir technique.
Exactement.
Voilà, il faut pas il faut les accompagner pas à pas, mais il ne faut pas les mépriser. C'est une ligne qui est difficile à trouver. On espère qu'on a su la trouver. C'est la première rentrée scolaire où ce livre est sorti. Donc, on attend les retours du terrain.
Alors, nous allons entendre un extrait de témoignage. Aline Le Gulu, je pense que vous connaissez cette personne parce que vous l'avez déjà rencontrée et croisée plutôt sur un plateau de télévision chez nos confrères de France 2. C'était en janvier dernier. Écoutez.
Ce qui m'a sauvée au collège, c'est vrai, quand je dis ça, c'est très important, parce que ça connote ma vie d'aujourd'hui. C'est quand, en quatrième, je découvre l'espagnol. Et l'espagnol est une langue que tu peux écrire sans faute, rien qu'en l'écoutant. Et là, j'ai une première alerte et je me dis, cette langue-là, j'arrive à l'écrire parce que j'entends et que c'est facile. En fait, tu as juste à recopier ce que tu entends. Los niños cantan, les enfants chantent. Qu'est-ce que tu entends en français? Rien, tu n'entends pas le S à enfant. Et encore moins le ENT à chante. Et là, je me dis, alors, si je suis capable d'écrire dans une langue étrangère et que le français me bloque, qu'est-ce qui me bloque? Ça a été ma première alerte. Et puis, j'ai développé l'oralité. Et ça m'a sauvé l'oral. Et heureusement que dans les examens, on a l'oral pour nous rattraper. Parce que, bon, moi, j'ai eu la chance quand même, après la quatrième et la troisième, de m'améliorer. Alors, toujours avec mes kilos de fautes, hein, mais je lisais de plus en plus vite. Même si aujourd'hui encore, je le dis souvent, j'ai pas la cadence de lecture de quelqu'un qui a passé 50 ans. Quand Dominique, mon mari, lit un article, on lit en même temps, il a fini avant moi. Mais bon, je m'en fous.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Alors ce témoignage, c'est celui d'Anne-Marie Guignard, qui a aussi appris à lire très tard. Et elle raconte donc que c'est en découvrant l'espagnol qu'elle a compris qu'elle avait un problème avec le français et pas avec la lecture de façon générale. Laurence Pierson, est-ce que le problème pourrait venir de la langue française en elle-même?
Alors oui, la langue française est une langue compliquée, oui, en particulier du fait de ses nombreuses lettres muettes qui sont complexes. Quand vous avez un mot comme « longtemps », où il va falloir mettre un G muet en plein milieu d'un mot et un PS à la fin du mot, c'est quand même très très compliqué. On n'aurait pas ça en italien où c'est transparent à plus de 95%. Je crois que le français n'est transparent qu'à peu près 70%. Enfin bon, il y a beaucoup beaucoup d'exceptions. Il y a tous les ce qu'on appelle les digrammes et les trigrammes, c'est-à-dire quand il faut plusieurs lettres pour faire un son, quand il faut A, I, N pour faire un, et puis une autre fois il faut I, N, puis une autre fois c'est E, I, N. Et puis quand vous écrivez EN, et ben ça se dit pas dans il chante au pluriel, mais si vous dites dans vent, ça se dit, et puis dans Benjamin, ça se dit un, ou dans Benzin. Enfin, c'est quand même très compliqué le français.
Absurde, on peut dire.
Absurde, je ne sais pas, c'est le produit d'une histoire, c'est une très belle langue, et je pense que comme toute chose difficile, une une fois qu'on se l'est approprié, on a accès à des tas de joies intellectuelles et la joie de la langue. Mais je pense qu'effectivement, en tout cas dans les études internationales, quand on nous dit qu'il faut comparer avec les enfants qui apprennent le finnois, alors le finnois est une langue extrêmement complexe, mais par contre, la lecture en est transparente, m'a-t-on dit. Alors, je ne lis pas le finnois, mais apparemment, quand vous entendez, si on vous dicte quelque chose en finnois et que vous le parlez, vous pouvez l'écrire. Moi, si on me dicte quelque chose en italien, je ne parle pas italien, je peux l'écrire. Chaque son correspond une lettre. En français, si on vous dicte un mot que vous ne connaissez pas, non, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut plus de temps. On ne peut pas faire des comparaisons internationales avec des langues différentes aux mêmes âges.
Aline Le Gulluch, ça vous a perturbé, vous aussi, cette orthographe, ou plutôt la rigidité de l'orthographe à la française ?
Alors moi, j'avais beaucoup de problèmes avec l'écriture, hein, donc c'était plus qu'une perturbation, je n'y arrivais pas. Je faisais que des mots simples, et encore. Maman, j'avais deux N, deux M, je confondais les lettres, le P, le B dans certains mots. Enfin voilà, c'est toute une gymnastique que je fais encore, parce que j'ai encore beaucoup de traces de cette maladie, hein, de cet handicap. Je mélange encore un peu certaines lettres. Et c'est pour ça que mon livre, je l'ai écrit, mais avec mon ordinateur. Parce que quand je mets un N à la place d'un M, il me souligne en rouge et ça me porte à réflexion. Et comme ça, ça m'aide beaucoup. Comme ça, je peux me relire. Parce qu'avec ma main, quelquefois, lorsque j'écris, j'écris beaucoup moins vite avec la main que mon cerveau fonctionne. Donc il y a des trous dans mes phrases et c'est pas terrible. C'est très compliqué. Mais je travaille tout le temps, je ne suis pas encore guérie. Je compte bien retourner encore à l'école, avoir encore des formations. Je compte bien continuer à évoluer parce que on n'y arrive pas en 6 mois, on ne rattrape pas toute une vie de scolarisation en 6 mois, même si j'ai eu une VAE, même si j'ai eu un CAP. Voilà, il y a encore beaucoup de traces et je compte bien continuer à combattre tout ça et puis à m'améliorer.
On va parler justement de votre apprentissage de la lecture et de l'écriture un petit peu plus tard, mais d'abord, on se dirige vers le Sénégal. On a une auditrice en ligne avec nous, c'est Khadija. Bonjour Khadija. Alors, racontez-nous, je crois que vous savez lire, donc, mais c'est votre maman qui ne sait pas et vous vous moquiez d'elle.
Bien sûr. Avant, quand on était petite et qu'on regardait les télé-novelas, moi et mes grands frères, elle ne faisait cocher la tête, elle ne comprenait rien. Là, on se moquait d'elle en disant, maman, pourquoi tu regardes les télé-novelas alors que tu ne comprends rien? Alors que ce sont ces moqueries qui le... Ils lui ont poussé à commencer à lire et à écrire avec moi. Un jour, elle est rentrée à Nona, un syllabaire français. Et elle m'a demandé de l'aider à comprendre l'alphabet français. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écrire ensemble.
Merci Khadija pour votre témoignage. On a un autre auditeur en ligne, c'est Chris. Bonjour Chris. Chris, vous nous entendez ? On va revenir vers Chris un petit peu plus tard. Ah, Chris est en ligne avec nous. Bonjour Chris. Non, toujours pas. On va revenir un petit peu plus tard. Aline Le Gulluch, cette histoire de Khadija qui se moquait gentiment de sa maman qui ne savait pas lire parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Est-ce que vous l'avez vécu, vous, avec vos propres enfants ?
Parce que mes enfants, j'ai toujours fait en sorte qu'ils ne le voient pas quand ils étaient petits. Déjà, je leur racontais des histoires avec un livre à la main, je leur faisais voir des photos et tout ça, ça se terminait en pièce de théâtre, on en rigolait beaucoup, mais je racontais, je ne lisais pas. Et puis ensuite, ils ont grandi, ils ont bien vu en grandissant que c'est eux qui lisaient les mots de la maîtresse et je n'avais plus qu'à les signer. Que... Voilà. Et ensuite, je leur demandais comment on écrivait ça. Voilà, pour faire une phrase, quelquefois, à la fin d'un document administratif, hein, un petit mot, donc je leur demandais toujours. Et puis ensuite, ils ont grandi et puis ils ont vraiment bien vu que c'était pas possible, quoi. Parce que même une carte en vacances, je pouvais pas l'envoyer, faire une carte de bons voeux, je pouvais pas la faire. Donc c'était vraiment une prison Une prison, c'est quelquefois, on a envie de faire plaisir aux gens, d'envoyer un petit mot, mais on peut pas. On peut pas, on peut rien faire. Donc, les gens, ils comprennent pas à l'autre bout, quoi. Non, ils ont toujours été très respectueux. Et ensuite, c'est eux qui ont fait mes courriers pour que je puisse retourner à l'école.
Alors, racontez-nous justement comment ça s'est passé, ce retour à l'école. Je crois que vous travaillez à l'hôpital et c'est une dame des ressources humaines qui vous a trouvé cette formation à Paris. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ces cours adultes ?
Alors, à l'époque, ça a été difficile pour que je retourne à l'école. Il a vraiment fallu que je me batte. Mais bon, je suis contente de l'avoir fait, vraiment. Et là-bas, c'était les compétences clés à Paris. Déjà, il fallait que je prenne le bus, le train et le métro pour arriver dans cette école. Et quand on a des problèmes de lecture et d'orientation, pour le coup, qu'on ne sait pas comment faire, c'est un peu compliqué. On se perd, mais bon. À chaque fois, on a gagné. Et là-bas, j'ai rencontré des jeunes. Moi, j'avais 50 ans, mais j'ai rencontré des jeunes de 20 ans qui sortaient de la scolarisation et ils avaient des problèmes avec la lecture, l'écriture et le calcul et la compréhension. Et c'est des enfants qui ont été scolarisés en France. Hein. Donc là, vraiment, ça m'a fait mal au cœur parce qu'on voyait tout de suite que c'était des enfants qui ont été meurtris à l'école, même s'ils avaient 20 ans, ils ont été meurtris, ça existe encore. Meurtris peut-être pas qu'à l'école, peut-être aussi dans leurs milieux familiaux, s'ils n'ont pas la même capacité à apprendre que d'autres enfants, tout de suite, ça les met de côté. Peut-être qu'ils étaient dyslexiques comme moi. Mais en tout cas, au bout de quelques temps, ils se sont adaptés. Nous, on s'est adaptés tous ensemble. On a fait une belle équipe et on est tous sortis gagnants de cette affaire. Tous sortis gagnants.
Mais c'est une très belle histoire. Merci beaucoup, Aline Le Guluche, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que votre livre « J'ai appris à lire à 50 ans » est disponible aux éditions Prisma, ainsi qu'en livre audio. Et merci à vous, Laurence Pierson, d'avoir accepté notre invitation. Votre cahier de lecture « Permis de lire » est lui disponible aux éditions MDI. Merci également à tous les auditeurs qui nous ont envoyé leurs précieux témoignages. Et on se quitte avec la douce voix d'Angélique Kidjo. C'est « Do Yourself » sur RFI. Milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission. Delphine de Dianous, Audrey Taïeb, Raphaël Lazizi et Olivier Roux à la réalisation. Demain, vous retrouverez Emmanuel Bastide pour une émission enregistrée à Abidjan consacrée à la scolarité des filles au lycée et à l'université en Côte d'Ivoire. Des filles qui sont minoritaires sur les bancs de l'enseignement supérieur. Pour réécouter l'émission en podcast, rendez-vous sur notre site rfi.fr ou sur votre plateforme de téléchargement préféré. À demain, jeudi, même heure, sur RFI.
RFI lance la 8.